Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission de débat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Benedetti, qui est rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
Donc on a souvent l'occasion d'échanger sur l'antenne sur des sujets d'actualité ou de fond. Aujourd'hui, le sujet que je souhaite aborder avec vous Arnaud, c'est la question du populisme, sauveur ou fossoyeur de la démocratie. Les démocraties occidentales semblent traversées par un mouvement de rejet des élites et des institutions politiques qu'on peut caractériser sous le nom de phénomène populiste. Ces populistes prétendent défendre le peuple dont la souveraineté serait confisquée par une élite corrompue ou détachée des réalités. Et on a vu, à travers l'élection de Donald Trump, celle de Boris Johnson et aussi Orban en Hongrie, que ces phénomènes prospéraient dans les démocraties occidentales. Et en France, il y a eu longtemps le Front National, et aujourd'hui de nouveaux mouvements comme celui d'Éric Zemmour semblent surfer sur cette dynamique. Est-ce que ça vous semble être aujourd'hui un fait majeur des démocraties en Occident?
C'est un fait majeur, en tout cas, des démocraties libérales. En Occident, aux États-Unis, on l'a vu, au Royaume-Uni, on le voit en effet dans les pays d'Europe orientale, mais aussi en France, dans une moindre mesure en Italie. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de catégories populaires notamment, qui ne se reconnaissent plus dans le fonctionnement des institutions. Alors c'est peut-être pas tant d'ailleurs le fonctionnement des institutions qui pose problème que les offres politiques, c'est-à-dire qu'en fait ces couches populaires considèrent que les offres politiques traditionnelles ne sont plus en mesure de répondre à leurs attentes, qui sont souvent des attentes d'ailleurs de protection sous diverses formes, hein, protection économique, protection sociale ou protection également culturelle. C'est une réalité qui traverse nombre de démocraties et qui, à mon sens, s'est installée durablement dans la vie politique de ces démocraties, et plus particulièrement peut-être dans la vie politique française, où on voit que le phénomène, qui est un phénomène qui a commencé à naître avec l'émergence du Front National à partir des années 80, parce que c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée, est aujourd'hui un phénomène qui, dans notre vie politique, semble, disons, prospérer avec des offres politiques qui, à droite la plupart du temps, mais aussi parfois à gauche, s'efforcent de récupérer...
Oui, on aurait pu citer Jean-Luc Mélenchon ou d'autres leaders.
Oui, Jean-Luc Mélenchon ne considère pas forcément que le populisme est un gros mot. Il fait partie, disons, de ces acteurs de gauche qui considèrent que la gauche a oublié les classes populaires et qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir à nouveau les récupérer pour tout simplement développer une offre politique qui soit une offre politique réellement alternative aux politiques publiques qui sont menées en France depuis 30 ans.
Mais pour aller un peu plus loin et réagir à ce que vous nous dites, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'il y a une forme de contagion du discours populiste, y compris dans des formations dites de gouvernement? On l'a vu avec la primaire des Républicains, où Éric Ciotti fait 40% des suffrages au second tour, est en tête au premier tour, avec un discours aux accents très 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 clivant, très très agressif. Et même aujourd'hui, si on additionne les scores potentiels de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et d'autres candidats, on n'est plus très loin de construire une majorité. Donc est-ce qu'on peut parler de phénomène secondaire, alors que peut-être demain un candidat populiste peut gagner les élections?
Non, je ne considère pas du tout que c'est un phénomène secondaire.
Non, mais vous avez dit c'est un peu les classes populaires et historiquement, c'est le Front National. Mais aujourd'hui, on est bien au-delà des classes populaires.
Oui, mais je veux dire, on est face à un phénomène qui, sociologiquement, est à mon sens majoritaire. Il y a deux aspects qui, en France, sont tout à fait, à mon avis, révélateurs et qui expliquent pourquoi, d'une certaine manière, cette sensibilité populiste, aujourd'hui, semble s'engouffrer dans une forme de béance. Vous avez deux indicateurs qui, à mon sens, expliquent ce phénomène. Le premier indicateur, c'est la participation électorale. Encore une fois, vous assistez depuis maintenant presque 30 ans à un reflux de la participation électorale qui veut dire quand même quelque chose sur le plan politique, c'est que les offres politiques, qui sont les offres politiques de gouvernement, mais pas seulement d'ailleurs, ne rencontrent plus l'adhésion de segments importants de l'opinion publique. On a vu récemment que les dernières élections législatives en 2017 ont donné lieu à une abstention qui est une abstention record lors d'une élection législative. Je ne reviendrai pas sur les élections régionales d'il y a quelques mois. Donc ce phénomène est massif. Ensuite, quand on regarde, et ça c'est extrêmement intéressant, quand on regarde par exemple les études de qualitatives en matière d'opinion qui peuvent être réalisées régulièrement par exemple un organisme comme le CEVIPOF, le Centre d'études sur la vie politique et l'opinion publique française, et notamment sur la confiance dans les institutions, lorsqu'on pose un certain nombre de questions aux Françaises et aux Français, par exemple, est-ce que les hommes politiques ou les femmes et les hommes politiques vous paraissent aujourd'hui répondre aux préoccupations qui sont les vôtres, vous avez 90% des personnes interrogées qui répondent non. Vous avez à peu près entre 35 et 40% des Françaises et des Français selon les années qui disent exprimer une forme de dégoût vis-à-vis de la politique. Donc, il y a dans les structures profondes et dans les couches profondes de l'opinion publique le sentiment que le politique n'est plus en mesure aujourd'hui de répondre aux préoccupations qui sont celles de la société. Donc c'est évidemment dans cette espèce de déshérence que une sensibilité politique populiste, d'ailleurs très souvent protéiforme, peut prospérer. Le populisme est le produit aussi, je crois qu'il faut le dire et le répéter, des échecs à un moment donné répétés d'un certain nombre de gouvernements à pouvoir répondre aux attentes de la société.
Alors, ce qui est exprimé par Pierre Rosanvallon d'une autre manière, il dit le populisme est une forme de réponse que l'on peut juger mauvaise au dysfonctionnement de la démocratie.
C'est exactement cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais le problème c'est que trop souvent on considère que le populisme ne serait qu'une pathologie, mais le populisme est d'abord une inquiétude, c'est-à-dire qu'il faut le traiter comme une anxiété, c'est-à-dire que le populisme exprime une forme d'inquiétude quant à l'évolution du politique et même, je dirais, quant à l'évolution de la démocratie libérale. Je ne suis pas sûr que par nature et originellement, le populisme soit aussi illibéral qu'on veut bien le dire. Il a pris cette expression parce que Viktor Orban en Hongrie revendique cette notion d'illibéralisme, mais la réalité c'est que vous avez aujourd'hui des segments importants des électrices et des électeurs qui considèrent par exemple que le fait d'aller voter ne sert plus à rien, c'est-à-dire que n'a pas d'impact sur le destin commun, sur le bien commun, sur le commun, comme l'on dit aujourd'hui. Donc cette réalité finit par, d'une certaine manière, créer les conditions d'un rejet des institutions démocratiques, mais tout simplement parce qu'on considère que les institutions démocratiques ne fonctionnent plus, c'est-à-dire qu'elles ne seraient même plus démocratiques. Un mouvement qui était très intéressant de ce point de vue-là et qui exprimait cette inquiétude et qui était à sa façon un mouvement populiste, mais un mouvement populiste non organisé, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui démarre à partir de revendications de type très matériel, c'est-à-dire la suppression d'une taxe que l'on juge à la fois liberticide d'une certaine manière, mais aussi extrêmement pénalisante pour le pouvoir d'achat et pour la capacité à se mouvoir. Et ce mouvement va déboucher sur des revendications d'ordre politique, d'ordre institutionnel, comme par exemple le référendum d'initiative citoyen, parce qu'on considère tout simplement que les institutions représentatives, la démocratie représentative, ne joue même plus son rôle de filtre, et voire même son rôle de délibération. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des mouvements qui puissent, d'une manière plus ou moins spontanée, avoir des revendications de ce type. Donc le populisme est tout autant une inquiétude vis-à-vis de l'évolution de la démocratie libérale qui ne répondrait plus aux attentes qui sont celles des citoyens, que à la fois une critique de cette démocratie libérale, parce qu'on considère aujourd'hui que la démocratie libérale telle qu'elle fonctionne est une démocratie qui serait aux mains des oligarchies et où le pouvoir politique d'ailleurs ne pourrait même plus véritablement agir.
Alors oligarchies qui peuvent être politiques et médiatiques, puisqu'il y a souvent aussi dans le discours populiste une tendance à mettre toutes les institutions un peu dans le même sac. Il y a aussi une caractéristique, semble-t-il, de ces mouvements populistes, d'abord qui sont présents dans plusieurs pays. Donc, ce qui voudrait dire que c'est pas simplement un problème d'offre politique nationale, ou alors il y a des problèmes d'offre politique en Italie, en Hongrie, aux États-Unis et en Angleterre, mais surtout il y a cette notion de leader charismatique, de sauveur de la nation. On l'a vu encore ce week-end avec le meeting de Éric Zemmour, qui, au nom de la volonté populaire, demande finalement au peuple de lui confier des responsabilités, y compris parfois pour évincer les corps intermédiaires, mettre à bas la justice et une partie de ce qui fait partie quand même de nos démocraties libérales, c'est-à-dire l'état de droit.
Oui, alors, si vous voulez, il y a deux caractéristiques qui sont propres au populisme. Mais dans ce cas-là, on peut avoir une définition assez extensive du populisme. Il y a deux caractéristiques et dont d'ailleurs Éric Zemmour, d'une certaine manière, exprime bien les propriétés. C'est que c'est le mythe, ce sont deux mythes qu'un historien, par exemple, comme Raoul Girardet a très bien décrit. C'est à la fois le mythe de l'homme providentiel et le mythe de l'âge d'or. D'ailleurs, le mythe de l'homme providentiel, c'est que, en effet, à un moment donné, dans une conscience spécifique de l'histoire, face à des défis que les classes gouvernantes ou les classes dirigeantes seraient incapables de maîtriser et de dominer, seul le surgissement d'un héros, d'une figure providentielle, serait susceptible de dépasser les divisions, les événements auxquels nous sommes confrontés. Et Éric Zemmour inscrit clairement sa candidature à l'élection présidentielle dans cette, mythologie, dans cette imagerie, dans cet imaginaire. Mais c'est aussi toujours l'idée que, nous avons perdu les fondamentaux de ce qui constituait la société ou de ce qui constituait la nation. C'est-à-dire que nous avons finalement derrière nous un âge d'or qu'il faudrait retrouver pour, d'une certaine manière, permettre à l'unité de se reconstituer. Donc vous avez là deux figures qui sont extrêmement importantes pour les populismes, c'est à la fois l'âge d'or et l'homme providentiel. Mais enfin, en même temps, l'homme providentiel est-elle une figure assez générale, parce que, après tout, le général de Gaulle lui-même activait cette figure de l'homme providentiel. Est-ce que le gaullisme est un populisme? C'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la critique qui émane à partir des mouvements populistes est une critique qui dit quelque chose sur une démocratie libérale qui aujourd'hui ne serait plus en mesure de tenir ses promesses, c'est-à-dire une démocratie qui aurait transféré le pouvoir, encore une fois, aux mains d'une technocratie, aux mains d'instances supra-étatiques. Donc c'est aussi, cette critique à la fois sociale et politique que portent les mouvements populistes, et je ne pense pas que la façon de lutter contre les mouvements populistes qui consiste à stigmatiser in fine le populisme soit le meilleur moyen de dépasser cette difficulté. Le populisme, encore une fois, doit être traité surtout comme une inquiétude, et ça, je crois que aujourd'hui, c'est ce qui manque dans notre réflexion critique pour essayer de générer une action politique qui permette de remettre sur ses pieds la démocratie libérale.
Est-ce que finalement, on ne pourrait pas aussi dire que, compte tenu de l'ampleur du phénomène et du fait que désormais, ce qui domine le débat politique, le discours politique en France, ce sont les voix populistes, les autres voix étant somme toute peu audibles et marginalisées. Est-ce qu'on va pas finalement vers une contagion populiste, je le disais tout à l'heure, dans les partis de gouvernement, où finalement il va falloir, ou un peu même à l'image de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, qui avait lui aussi dit qu'il allait briser des tabous, qu'il rejetait le vieux système des partis, et qui avait surfé aussi un petit peu sur ce dégagisme qu'on disait à l'époque. Et donc, est-ce que finalement, c'est pas ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une mutation du fonctionnement de nos démocraties vers une propension à animer et utiliser un certain nombre de figures rhétoriques, politiques, pour ramener des suffrages vers soi?
La référence au macronisme est très intéressante parce que, en effet, le macronisme s'est bâti sur une critique des défaillances d'un système politique qui n'aurait plus été capable, in fine, de répondre aux attentes des citoyens et des citoyennes. Mais si vous voulez, le fondement, finalement, peut-être, du macronisme, c'est que c'est une forme d'illibéralisme, mais sans le peuple. C'est-à-dire une forme d'illibéralisme qui est au service, in fine, des catégories sociales professionnelles qui sont les plus gagnantes de la mondialisation. C'est une sorte, j'allais dire, de populisme des riches que celui peut-être d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu, c'est-à-dire une vision très verticale avec un homme qui est une forme d'homme providentiel. Macron Macron a restauré la figure de l'homme présidentiel jusque dans les initiales de son parti, En Marche, qui correspondent à ses initiales à lui, Emmanuel Macron. Mais on a vu quand même que il a été profondément rudoyé durant son quinquennat, et que un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes montre que il n'a pas réussi, en tout cas dans les 5 ans de son mandat, à ramener vers la démocratie libérale les classes populaires et une partie des classes moyennes qui continuent à déserter les urnes, qui continuent à avoir étude d'opinion après étude d'opinion une vision extrêmement négative du fonctionnement démocratique, et qui pour certaines d'entre elles sont prêtes à aller voter pour des formations d'ultra-droite, voire des formations comme celle de Jean-Luc Mélenchon. Donc Emmanuel Macron, si son pari c'était de réconcilier les Françaises et les Français avec la politique, à ce stade on ne peut pas considérer que son mandat est finalement réussi à atteindre cet objectif-là.
Merci Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et que nous sommes régulièrement amenés à vous interroger avec d'autres membres de la revue sur les évolutions politiques, sociales et sociétales de notre pays. Et aujourd'hui, on avait décidé d'aborder dans la première partie de l'émission ce sujet. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?»
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» Une émission où j'interroge mes invités sur la question du populisme en politique, du discours populiste et de son rapport à la démocratie. Est-ce un remède ou un poison pour nos démocraties en Occident? Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Rosès. Bonjour Stéphane.
Bonjour Alexis Bachelet.
Vous êtes président de CAP et professeur à Sciences Po. On vous connaît également comme spécialiste des enquêtes d'opinion, mais c'était presque dans une autre vie, même si je suppose que vous continuez à scruter l'opinion. Et justement, ma première question, ça sera, on est dans un moment politique très intense et très particulier, avec une campagne présidentielle qui s'annonce, et des candidats aussi qui prennent des positions. Et dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment que le populisme qui était un peu à la marge de la vie politique française, une marge parfois très présente, très visible, mais à la marge, semble aujourd'hui contaminer le champ politique et prendre une position de plus en plus centrale. Est-ce que c'est aussi votre analyse ?
Oui, absolument. En remontant au milieu des années 90, où émerge majoritairement le sentiment que dans les sociétés telles qu'elles sont, et notamment la France, ce ne seraient plus les gouvernants, les hommes politiques qui feraient le cours des choses, mais les marchés financiers, l'économie, et c'est le début d'un sentiment majoritaire qu'à côté des questions sociales ou en superposition, un nouveau clivage s'instaurerait entre d'un côté des élites, faites justement des financiers, des gouvernants, des grands chefs d'entreprise, des hauts magistrats, des journalistes, des politologues d'un côté, puis de l'autre, le reste des Français, un peuple d'individus qui ne maîtriseraient plus leur avenir. Et donc ce sentiment de dépossession est ancien, mais il trouve maintenant une traduction politique nette du côté de ceux, au fond, qui se présentent au suffrage des citoyens.
Alors, la question qui nous est également posée, c'est que traditionnellement, le populisme incarne une défense du peuple dont la souveraineté serait confisquée, c'est ce que vous définissiez également, par une élite corrompue et détachée de la réalité, élite dans laquelle on inclut évidemment la classe politique, mais également tous les médias. En tout cas, les médias, on va dire, installés. Et puis, au-delà de ça, un rejet un petit peu systématique des corps intermédiaires. Est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression que il y a désormais beaucoup de candidats qui rentrent dans cette catégorie, et que même dans les partis de gouvernement, on l'a vu notamment avec la qualification de Éric Ciotti au deuxième tour de la primaire LR, hein, dans le parti de gouvernement, eh bien cette propension à se référer comme ça à des thématiques qui classent les candidats ou les hommes politiques dans cette catégorie, est-ce qu'on a l'impression qu'on passe de la marginalité, de partis à la marge, à des partis plus installés qui finalement essayent de surfer aussi sur ces dynamiques?
Oui, absolument, mais au fond, l'élection d'Emmanuel Macron dans un débat avec Marcel Gauchet dans la revue, justement, le débat, dès l'élection d'Emmanuel Macron, l'entretien avait été intitulé « Emmanuel Macron, Aladdin de l'imaginaire français ». C'est-à-dire que il avait libéré de la lampe à huile française un génie qui était celui de, au fond, dénoncer de l'intérieur du système la classe politique ancienne, empêchant le pays de se réaliser, Emmanuel Macron se faisant fort de remettre en marche le pays contre les formes traditionnelles du système politique de l'ancien monde. Et je terminais l'entretien en disant que si Emmanuel Macron échouait, il n'arriverait pas, comme Aladdin, à remettre dans la lampe à huile ce qu'il avait libéré. Pour moi, la grande jacquerie des Gilets jaunes en a été la première expression, quand le pays a eu le sentiment qu'il revenait à la posture et politique de ses prédécesseurs, enclavés dans des logiques et politiques extérieures, et la forme que prend ce début de présidentiel en est également l'expression. Donc en fait, ça s'exprime en France par des avatars de bonapartisme. J'avais indiqué que selon moi, Emmanuel Macron était un néo-Bonaparte, c'est-à-dire un Bonaparte à l'heure néolibérale. Il y a au fond Marine Le Pen qui a essayé de faire évoluer le Front National vers un parti national et social, le Rassemblement National, et arrive maintenant Éric Zemmour, qui oscille un peu entre la posture du Bonaparte, pas du tout néolibéral, mais Bonaparte dur, avec des formes sur certains aspects plus maurrassiennes, mais qu'il a mis de côté lors de son dernier discours. Et en un mot, ce retour à des fondamentaux archaïques de notre imaginaire qu'est le bonapartisme, c'est la signature française. Raymond Aron, dans un texte à l'ombre des Bonapartes daté de 1943, visant d'ailleurs le général de Gaulle, ensuite il dira qu'il avait un peu exagéré, au fond dit qu'il n'y a pas de base culturelle au fascisme en France et que la forme de l'autorité politique en France, c'est le bonapartisme, qui est cette prétention à établir un lien direct, sans intermédiaire, entre le dirigeant et le pays. C'est ça que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, c'est assez intéressant parce que on a fait le même constat et Arnaud Benedetti disait que, enfin, je lui suggérais que Emmanuel Macron avait aussi profité, lui, de ces éléments de dynamique populiste à travers ce qu'on avait appelé à l'époque le dégagisme. Et le constat que faisait Arnaud Benedetti, c'est que c'était un pari réussi pour l'élection, mais un pari raté pour le quinquennat. Et donc, sous une forme un peu différente, il disait la même chose que vous. Sauf que vous allez plus loin, vous dites qu'en fait, Emmanuel Macron a libéré un génie, qui peut être bon ou mauvais. Il était peut-être bon pour Macron, mais peut-être mauvais pour le pays si le génie ne veut pas repartir dans la lampe et si désormais il agite les passions mauvaises, des passions malsaines, étant entendu que Éric Zemmour met quand même sa candidature sous le sceau d'un rejet de tout ce qui n'est pas sa pensée. Et avec parfois une certaine brutalité et des menaces sur l'état de droit et ce qu'on appelle, nous, la démocratie libérale.
Je suis en désaccord profond avec l'idée de dégagisme. Je pense que c'est une facilité politologique. Je ne crois pas du tout que quand les Français vont aux élections pour voter, ça soit comme aux États-Unis contre. Quand les Français vont voter, c'est qu'il doit forcément y avoir une dimension positive qui est sa propre dynamique, car le rapport des Français à la politique, contrairement aux pays anglo-saxons, c'est un rapport absolu et pas relatif. Notre histoire fait que notre rapport aux politiques s'est fixé à un moment donné ce qui nous tient ensemble. Et c'est plutôt au travers de l'abstention que se manifeste le vif mécontentement. Mais on ne mobilise en France que sur un propos positif. Et c'est pas parce qu'on ne trouve pas qu'il faut, en termes d'interprétation, recourir à cette idée de dégagisme qui est une facilité. Comme analyste, j'essaye de comprendre les cohérences des candidats avec, ou pas, avec l'imaginaire français et l'enjeu de la présidentielle à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe avec Éric Zemmour ? Après la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire, les Français majoritairement, je l'avais écrit, enfin, lors d'un long entretien dans Le Vent se lève, il y a plus d'un an, je l'avais dit, c'était intitulé « Remettre l'État au service de la nation », que le sujet rentré des Français, c'était la France, la pérennité de son modèle politique et social. La question a été esquivée par les candidats à la présidentielle, sauf un Arnaud Montebourg, mais qui a eu le tort de l'aborder par l'économie. Alors que selon moi, notre malheur a des raisons politiques. Et un essayiste polémiste polémique, Éric Zemmour, s'aperçoit non seulement qu'il a du succès éditorial ou d'audience, mais que beaucoup le pressent d'aller à la présidentielle. Et en y allant, il réveille le vrai sujet des Français, qui est celui de la France. Et donc, il fait bouger les lignes par en bas, et il est instrumentalisé par ceux qui, dans les intentions de vote, disent le soutenir, nonobstant ses excès sur Vichy, sur les prénoms, sur la confusion initiale entre les musulmans et les islamistes. En un mot, son caractère disruptif est utilisé par une grande partie des Français pour remettre le sujet de la France, de la pérennité de son modèle, dans la présidentielle. Sinon, on ne comprend rien à ce phénomène inédit de quelqu'un qui sort de nulle part et dont les intentions de vote au début le placent au second tour. Donc, dans ma grille d'analyse anthropologique sur l'imaginaire des peuples qui est la mienne, c'est le bas qui fait le haut. Et ce qu'est le débat idéologique ou politique, ce n'est pas les gens en haut qui se regardent, qui se copient. Non, pas du tout. Mon analyse est radicalement différente. J'ai une analyse imaginariste où la politique, c'est de la physique des profondeurs. Donc, Éric Zemmour a réveillé ça dans son débat avec Mélenchon. Il a lancé la campagne et le vrai sujet, me semble-t-il, c'est s'agit-il d'une simple secousse ou s'agit-il de signes avant-coureurs d'un tsunami qui ferait qu'au fond, toutes les situations seraient ouvertes pour cette présidentielle.
C'est la différence entre une poussée de fièvre et une pathologie durable et qui s'installe et qui s'empare de tout le corps.
On peut utiliser cette métaphore, mais si le terme pathologie n'était pas un jugement de valeur obscurcissant l'analyse, car ce que vous appelez pathologie, c'est au fond ce qui existe dans tous les pays dans le monde. Et pour revenir à votre question initiale, la nouveauté du populisme dans le monde, c'est que contrairement aux années 30 où c'était une critique de la démocratie pour revenir à la monarchie ou bien le fascisme ou bien le communisme, les populismes aujourd'hui se prétendent être eux les vrais démocrates. C'est-à-dire que c'est au nom de la démocratie que les populismes se déploient et prospèrent. Pourquoi? Parce que on est passé d'une démocratie libérale à une démocratie néolibérale. Or, pour moi, le néolibéralisme, c'est le contraire du libéralisme. C'est la gouvernance et la globalisation économique, financière, numérique et même sanitaire qui rend les pays interdépendants, mais qui prive les peuples de la maîtrise de leur destin, parce que les mécanismes du néolibéralisme éloignent les États des nations et des us et coutumes de chaque peuple. Et quand les peuples ont le sentiment qu'ils sont privés de leur destin, alors ils reviennent au caractère primitif de leur imaginaire. Donc c'est pas du tout pour moi une pathologie, C'est la façon dont les peuples fonctionnent. D'ailleurs, la crise pandémique a bien montré que le sujet des peuples, c'était pas la prospérité, c'était on maîtrise ensemble notre destin. Et les peuples sont prêts à aller assez loin dans le recul des libertés individuelles en la matière. Donc il ne faut pas se tromper de diagnostic. C'est le néolibéralisme qui entraîne en réaction l'idée que les peuples sont privés de la maîtrise de leur destin et donc que les gouvernants ne sont plus leurs représentants. Et au fond, la famille Le Pen, le père et la fille, c'est pas pareil que le père, Éric Zemmour, journaliste, polémiste, et Éric Zemmour lors de son meeting, c'est pas non plus exactement la même chose, mais le mouvement est le même, c'est-à-dire un recentrement sur le caractère archaïque de notre imaginaire qui, en temps de crise, c'est la forme du Bonaparte où la question du commun l'emporte sur la question de la dispute au travers d'une incarnation, et c'est ça qui explique la disparition de la gauche. La gauche disparaît pour des raisons structurelles, parce que le néolibéralisme en réaction fait que le sujet premier, c'est le sujet commun, celui de la nation, et pour des raisons conjoncturelles, parce qu'alors que l'origine de la gauche idéologiquement, c'est la nation et la République, au fond, la gauche est devenue néolibérale parce qu'elle a confondu l'internationalisme et les processus transnationaux, et elle est devenue communautariste parce que renonçant à défendre les catégories populaires, elle a trouvé en substitut l'idée qu'elle devrait être le centre de ralliement des minorités. Ces deux éloignements de l'imaginaire français, pour des raisons structurelles, mais aussi conjoncturelles, expliquent la disparition de la gauche.
Merci beaucoup Stéphane Rosas, c'était extrêmement limpide, comme souvent dans l'analyse.
Merci.
Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». J'ai eu le plaisir de recevoir Arnaud Benedetti et Stéphane Rosès. Je rappelle que vous êtes président de CAP et enseignant à Sciences Po. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Stéphane. À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.